Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment? Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 22 août 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. La base de drones flottantes iraniennes arrive en mer Rouge. L'armée américaine a fait passer en contrebande du pétrole brut de Syrie vers des bases en Irak. Et le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne est arrivé à Conakry pour des rencontres avec la junte, la classe politique et la société civile. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le commandant-chef de la marine iranienne a déclaré que la présence des destroyers de la marine de l'armée iranienne avait assuré la sécurité économique du pays sur 2200 km au-delà de ses frontières. Il a fait cette remarque dimanche 21 août lors de la cérémonie d'accueil réservée à la 83e mission navale de la marine iranienne sous le commandement du destroyer Al-Wad qui est revenu dimanche à la ville portuaire de Bandar Abbas, après avoir terminé une mission qui a duré 93 jours. Au cours de sa mission de 3 mois, la flottille a escorté des navires marchands et des pétroliers iraniens en mer Rouge et dans les eaux internationales à une distance de 2200 km des frontières maritimes iraniennes. Le contre-amiral Jahram Irani a félicité ce dimanche 21 août les forces navales pour la protection des intérêts économiques du pays. Il a noté que la présence de la marine iranienne dans les eaux internationales a découragé les ennemis de toute action hostile, soulignant les activités hostiles du régime israélien en mer Rouge. Il a également ajouté que la 84e mission de la marine sous le commandement du destroyer iranien Jamaran a exercé ses missions assignées dans la zone du détroit de Bab el-Mandeb au nord de la mer Rouge et le canal de Suez afin de sécuriser l'artère économique du pays et de protéger les intérêts de la République islamique d'Iran. Le commandant a également déclaré que la décision de la marine iranienne de dévoiler sa première division transportant divers types de drones avait pu changer les équations régionales. Le 15 juillet dernier, la marine iranienne a annoncé qu'elle avait établi sa première mission de transport de drones dans l'océan Indien. La nouvelle division navale se compose de plusieurs navires et sous-marins transportant tous les types de drones de combat et de reconnaissance. La télévision iranienne a diffusé des images de plusieurs types de drones iraniens tels que Pelican, Oma, Arash, Jamrosh, Zubin, Ababil 4 et Bavar 5, décollant de différents navires iraniens et survolant l'océan Indien. Notant que la moindre agression de l'ennemi ferait l'objet d'une réponse écrasante de l'Iran, le commandant-chef de l'armée iranienne, le général de division Abdelrahim Moussavi, a alors déclaré que les forces armées iraniennes étaient conscientes de l'attitude agressive des Américains, d'où la nécessité d'augmenter les capacités défensives du pays. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a annoncé dimanche 21 août le retour de l'ambassadeur du pays à Téhéran dans les prochains jours. dans le cadre du renforcement des relations avec la République islamique d'Iran, conformément à la promotion du niveau des missions diplomatiques des deux pays au niveau des ambassadeurs et suite à l'appel téléphonique le 26 juillet dernier entre Sheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, et le docteur Hossein Amir Abdullayan, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Saif Mohammad Al-Zabi, l'ambassadeur des Émirats arabes unis, sera de retour dans la capitale iranienne dans les prochains jours, affirme le communiqué du ministère émirati des Affaires étrangères. Le ministère a souligné qu'Al-Zabi aiderait à promouvoir les relations bilatérales avec la coordination et la coopération des autorités iraniennes. L'armée américaine a fait passer en contrebande du pétrole brut de Syrie vers des bases en Irak. Washington continue de piller les ressources énergétiques dans le pays ravagé par la guerre, a déclaré l'agence de presse officielle syrienne Sana. Un convoi de 122 camions-citernes chargés de pétrole de la région riche en énergie de Jazira, dans la province de Hasake, dans le nord-est de la Syrie, a traversé dimanche 21 août le passage frontalier illégal de Mahmoudiya vers l'Irak voisin, où sont stationnées des forces et des entraîneurs américains, a rapporté Sana, citant des sources locales à la ville de Yaroubiya. Un autre convoi composé de 15 camions-citernes a quitté les territoires syriens pour l'Irak peu de temps après. Des sources locales ont ajouté que des véhicules blindés appartenant aux forces démocratiques syriennes, FTS, soutenus par les États-Unis, ont escorté les convois jusqu'à leur arrivée au poste frontière. Le samedi 20 août, les comités conjoints de coordination russe et syrien sur le rapatriement des réfugiés syriens ont fustigé le pillage continu du pétrole syrien par les forces d'occupation américaines, affirmant que le pillage est responsable de la situation humanitaire désastreuse dont souffrent les Syriens. Dans une déclaration commune, les commissions ont appelé la communauté internationale, en particulier les pays voisins de la Syrie, à adopter des mesures efficaces pour arrêter le pillage des ressources naturelles du pays arabe et leur contrebande à l'étranger. Ils ont également exhorté les institutions des Nations Unies à jouer un rôle plus actif dans l'aide humanitaire aux Syriens et à entreprendre des projets de reconstruction comme le stipule la résolution 2642 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux organes ont également souligné la nécessité de lever les sanctions imposées aux institutions qui contribuent à la reconstruction des infrastructures et des équipements publics de la Syrie. Ils ont déclaré que Moscou et Damas condamnaient fermement l'occupation des territoires syriens et le pillage des biens nationaux syriens par des forces étrangères. Un ancien ministre yéménite des Affaires étrangères a déclaré que la Légion étrangère française, une force militaire composée de ressortissants étrangers, est arrivée dans la province de Chabfa, dans le sud du pays arabe Yémen, pour s'assurer le contrôle d'une installation gazière. Dans un message sur son compte Twitter, le mercredi 17 août, Abu Bakr al-Rirbi a déclaré que la France se préparait à exporter du gaz depuis l'installation de Balhaf, à la lumière de l'augmentation des prix internationaux du gaz dans le but de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe au milieu de la crise énergétique mondiale exacerbée par le conflit en Ukraine. Le nouveau développement est intervenu après qu'en juillet, Paris et Abu Dhabi ont signé un accord de coopération énergétique pour la production conjointe de gaz naturel liquéfié, GNL. Selon des informations du début de l'année, la coopération énergétique entre les deux pays vise à assurer le contrôle des ressources gazières yéménites via l'installation de Balhaf, qui appartient à la multinationale pétrolière et gazière française Total. Suite aux commentaires de Kirby, le Parlement du gouvernement de salut national basé à Sanaa a mis en garde contre les mouvements suspects de troupes américaines et françaises dans les zones occupées du sud du Yémen. Le Parlement yéménite a ensuite publié une déclaration mettant en garde contre les activités suspectes des forces affiliées aux États-Unis et à la France, deux des principaux partisans occidentaux de la guerre menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Le Parlement a également appelé à la vigilance face aux tentatives perfides de la coalition d'agresseurs dirigée par l'Arabie saoudite d'entraver la mise en œuvre de la trêve négociée par l'ONU, qui est entrée en vigueur pour la première fois en avril. Il a en outre mis en garde contre le rôle suspect du soi-disant conseil de direction présidentiel mis en place par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui, selon la législature, a été conçu pour faire avancer l'agenda des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël pour diviser le Yémen et saper son unité, sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. Le Parlement yéménite a ajouté qu'il tenait les membres du soi-disant Conseil présidentiel responsables des conséquences de leurs actions perfides au Yémen ou à l'étranger, puisqu'ils ne représentent pas le peuple yéménite et n'ont aucune légitimité légale. La France a récemment fait l'objet d'un examen minutieux pour son implication dans la guerre menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise guinéenne, l'ancien président du Bénin, Thomas Yaviboni, est arrivé à Conakry dimanche soir 21 août. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, Maurice Anda Kouyaté, et le représentant du bureau de la CEDEAO à Conakry. Après plusieurs annonces et reports, Yaviboni est enfin arrivé dimanche, au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre en Guinée et d'un léger remaniement ministériel. Selon un communiqué de la commission de la CEDEAO en Guinée publié le 13 août, il prévoit un dialogue inclusif avec les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile guinéenne. Fraîchement nommé médiateur pour la transition politique en Guinée, l'ancien président béninois Thomas Boniavi a effectué sa première visite à Conakry le 20 juillet dernier. Lors de cette visite, il a eu des discussions sur le chronogramme de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha Condé, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, favorable à une courte transition, a rejeté le 3 juillet ce délai lors d'une réunion à Accra sans annoncer de nouvelles sanctions contre la Guinée, déjà suspendue des organes de l'organisation. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Israël, le sultan trahit déjà. Alors que la normalisation avec Israël semblait être la condition sine qua non d'un retour en grâce de la Turquie chez le gouvernement américain, les premiers signes d'une trahison commencent à apparaître sur la donne turco-américaine. Au coût économique dû à la notation négative de Moody's que touche l'économie turque, s'ajoute l'implantation des batteries de dômes de fer israéliens à Chypre, rien que pour écarter les menaces de la Turquie. Le coup dur de l'Amérique contre la Turquie détruira l'économie du pays. Il perturbe le régime d'emprunt, met en faillite les entreprises et renvoie Recep Tayyip Erdogan dans le sombre. Le département américain à la défense ayant explicitement confirmé les crimes de guerre de la Turquie en Syrie, le pays ne peut plus être membre de l'OTAN comme le stipule l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais quels sont les autres effets de cette prise de position extrême de Washington sur l'économie et la politique turque? La dette turque s'élève maintenant à environ 460 milliards de dollars que le pays doit remplacer par de nouveaux emprunts et en rembourser une partie pour rester sur le marché mondial. Son inclusion sur la liste des pays ayant commis des crimes de guerre fait chuter sa cote de crédit, ce qui compliquera le processus d'emprunt et obligera les entreprises turques à obtenir des prêts avec des taux d'intérêt plus élevés ou à se tourner vers le marché obligatoire et coûteux. Dans les deux cas, l'économie turque subira plus de pression qu'auparavant. Moody's, l'agence new-yorkaise de recherche financière et de notation indépendante, a abaissé la note de crédit de la Turquie de B2 à B3 avec une perspective négative, ce qui a provoqué la colère des responsables du gouvernement d'Erdogan, mais en vain. Le mois dernier, l'agence de notation américano-britannique Fitch a fait de même en abaissant la cote de crédit de la Turquie de B+ à B avec une perspective négative. De telles démarches se poursuivant, les investisseurs étrangers reçoivent le signal de sortie de l'économie turque. La nouvelle intervient alors que Chypre, à l'autre côté des frontières turques, cherche à acheter le système de défense anti-aérienne israélien d'hommes d'affaires, un moment où les relations entre Ankara et Tel Aviv font couler de l'encre. La presse grecque affirme que les contrats liés à cet accord ont déjà été signés avec Tel Aviv, sans toutefois indiquer une date pour la finalisation de l'accord ni le nombre des systèmes antimissiles que Chypre a l'intention d'acquérir. Certaines sources ont déclaré que la décision de Tel Aviv de vendre le système d'hommes d'affaires à Chypre était liée au mécontentement des autorités sionistes de l'éventuelle nomination de Fluk Ulutas en tant qu'ambassadeur turc en Palestine occupée. Fluk Ulutas est en effet fortement anti-israélien et même antisémite. Ayant fait ses études dans une université hébraïque à Rots, Ulutas maîtrise l'hébreu. Dans un article publié il y a un mois, il a dénoncé l'occupation des terres palestiniennes par Israël et accusé ce dernier de nettoyage ethnique. En outre, il a vivement critiqué dans des tweets la normalisation des relations avec Israël.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Nous sommes le samedi 20 août et nous sommes en direct avec vous depuis la capitale iranienne, Téhéran. Dans cette édition du débat, nous allons évoquer le dernier discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, qui s'est tenu ce vendredi dernier, le 19 août. Alors, lors de son discours et comme d'habitude, le secrétaire général du Hezbollah libanais a évoqué plusieurs sujets, les évolutions de la région en ce qui concerne l'accord nucléaire entre l'Iran et les 4+1, mais également, et le plus important, la région contestée de Karish et les tensions entre le Liban et Israël à ce sujet. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a insisté sur le fait que l'accord nucléaire iranien avec les pays européens et les États-Unis d'un autre côté n'a rien à voir avec les tensions du Liban avec Israël en ce qui concerne le gaz, le hydrocarbure et la région de Karish, et a insisté sur le fait que si le Liban n'obtient pas ses droits en ce qui concerne cette région contesté, c'est-à-dire Karish, nous irons vers l'escalade, même si l'Iran signe un accord avec les Européens et les États-Unis. Alors, qu'en sera-t-il de ces tensions entre le Hezbollah libanais et Israël en ce qui concerne cette question très importante sur laquelle Saïd Hassan Nasrallah a maintes reprises en fait insisté et a insisté et réitéré que le Liban insiste et ne renoncera en aucun cas à ses droits légitimes sur cette affaire. Alors, afin d'évoquer ce sujet, nous avons deux analystes avec nous en direct depuis Paris, mais également depuis Damas. Je vous les présente tout de suite. Alors, le premier invité s'agit de M. Imadeddin Amrouni, analyste des questions internationales qui est avec nous depuis Paris, mais également Aïssa Armidani, Madame la docteure Aïssa Armidani, analyste des questions internationales, analyste franco-syrienne des questions internationales qui est avec nous depuis Damas. Alors, les dames d'abord, je commence avec vous, Madame Idani. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant ce débat. Comment interprétez-vous, Madame Idani, ce discours de Saïd Hassan Nasrallah dans la conjoncture actuelle? Il y a d'un autre côté les chances d'un nouvel accord entre l'Iran, les 4+1 et également les États-Unis. D'un côté, les tensions qui ne cessent de monter en crescendo entre le Liban et Israël concernant la zone de Karish. Comment pourrait-on interpréter tout ceci?
Bonjour à vous et merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe Presse TV. Bonjour à votre invité et tous les téléspectateurs. Je pense effectivement que ce discours est quelque chose de très important dans cette phase où il y a tout un tas d'analystes qui cherchent à relier la réaction du Liban, surtout du Hezbollah libanais concernant le pétrole et le gaz à Karish avec la signature de l'accord nucléaire la signature du retour au nucléaire des États-Unis. Et en fait, ça d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de forces qui veulent semer la discorde au sein de du Liban pour montrer que le Hezbollah, il ne se bat pas pour les intérêts libanais, mais il se bat pour les intérêts iraniens dans la région.
Oui.
Ce sont des forces qui sont nourries par les États-Unis et pour lesquelles elles versent beaucoup d'argent. Donc, en fait, ce discours a été très utile pour une mise en garde à deux niveaux. Premièrement, une mise en garde très claire, non seulement de l'État d'Israël, et une mise en garde aussi de l'envoyé qui est censé être médiateur et qui a été nommé par les États-Unis, Hochstein, Amos Hochstein,
oui.
Qui est tout en étant... qui est à la fois américain et israélien, donc il n'est absolument pas neutre et qui est encore moins capable de jouer le rôle de médiateur ou d'arbitre, entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui est complètement pro-israélien, il a la nationalité israélienne, il a déjà fait son service militaire aussi en Israël. Mmh. Donc, et c'est lui qu'on nomme et que l'ONU nomme comme étant médiateur dans les discussions indirectes, en fait, entre le Liban et l'État fantoche d'Israël pour la détermination des frontières au sein du puits Karish de gaz et de pétrole. Donc, en fait, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le Samahat Cheikh Nasrallah précise, montre aussi une position déterminée et précise quant aux résultats qui pourraient résulter de ces rencontres et de cette dite médiation, que de toute façon, si le Liban n'obtient pas ses droits, nous irons crescendo nous les arracherons, autrement dit, nos droits. Et puis, si le Liban obtient ses droits, OK, on continue. Mais il est clair que, de toute façon, les droits libanais ne sont pas seulement dans la délimitation des frontières au sein du puits, mais aussi avec la possibilité d'exploiter immédiatement les richesses du Liban pour résoudre aussi aujourd'hui tous les problèmes économiques et financiers du Liban. Donc nous exploiterons notre pétrole, nous résoudrons nos problèmes et si nous n'avons pas gain de cause, personne, absolument personne, ne pourra exploiter son pétrole dans la Méditerranée. Donc là, c'est quelque chose de très clair, de très net, de très précis quant à la défense des droits du Liban et quelle que soit aussi la position ou le résultat de cette commission de médiation.
À vos souhaits, Madame Hidden.
Quel que soit le résultat de ces pourparlers indirects. Donc, ça, c'est un message qui est non seulement à Israël, c'est un message aux médiateurs, c'est un message au monde, c'est un message aux Américains et aux Occidentaux, les forces de l'OTAN qui soutiennent Israël et qui soutiennent aussi et qui sont contre le Liban, mais aussi à toutes les forces à l'intérieur du Liban qui veulent jouer à l'entrave et qui veulent entraver le fait que le Liban puisse exploiter toutes ses ressources et toutes ses richesses, et qui sont rien d'autre que les alliés des Occidentaux, les alliés des Américains, en fait, qui essayent de nier ou de faire en sorte que le Liban n'ait pas tous ses droits pour qu'ils aient bon jeu, beau jeu pour aller au FMI et pour aller se lier encore plus à l'Occident et prendre des prêts américains et des prêts des pays occidentaux, augmenter leur influence dans la région. Donc, il est clair que ce sont des gens qui travaillent pour les Américains et pour l'État d'Israël aussi, au sein du Liban, malheureusement.
Bien sûr. Merci pour vos explications, Madame Idani. Alors, Imad Eddin Amrouni, analyste des questions internationales, est également avec nous depuis Paris. Monsieur Amrouni, je vous dis bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. En ce qui concerne ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Monsieur Amrouni, pourquoi, à votre avis, est-ce que les milieux occidentaux ont une tendance à lier l'affaire libanaise, dont les tensions autour de la zone contestée de Karish, avec l'accord nucléaire iranien? Ce sont deux dossiers assez différents, assez indépendants. Bien sûr, l'Iran entretient de relations très étroites avec le Liban et le Hezbollah libanais, mais pourquoi ils ont une tendance, les milieux occidentaux, à lier ces deux affaires?
Bonjour d'abord à vous et à votre invité de Damas et à tous nos auditeurs de l'émission. Vous savez, ce discours vient dans le cadre de la célébration du 40 ans de la vie de la résistance. Oui. Aujourd'hui, on a une résistance mûre, sage, et elle passe dans une deuxième phase. C'est ça qu'il faut noter dans les derniers discours du secrétaire général de la résistance libanaise. Ce discours, il affirme le positionnement de l'axe de la résistance dans toute la région. On ne parle pas simplement sur une frontière libanaise palestinienne occupée par l'entité sioniste. On parle d'une transformation géopolitique et surtout dans le problème énergétique dont l'Europe et l'Occident a besoin aujourd'hui. Donc le timing de ce discours, c'est un timing stratégique très important où il met les points sur les i, c'est-à-dire dans le cas de Karish, la résistance libanaise a le droit de défendre les intérêts du peuple libanais et de l'État libanais. Oui. Et dans ce cadre-là, donc, on voit que la résistance libanaise, elle prend, c'est-à-dire elle prend acte de tout ce qui va se passer dans les prochains jours, car on parle de quelques jours. Le secrétaire général de la résistance libanaise, il a donné un ultimatum, c'est-à-dire mi-septembre. D'ici mi-septembre, si l'entité sioniste n'accepterait pas ce que l'État libanais demande par rapport à la frontière maritime entre le Liban et l'entité sioniste, et deuxièmement, par rapport à l'exploitation libanaise des puits qui se trouvent dans cette région par des sociétés russes et des sociétés iraniennes et françaises. Donc on est dans une phase très importante pour l'axe de la résistance et une phase très importante pour le peuple libanais. Parce qu'au niveau politique intérieur, on n'a toujours pas le nouveau gouvernement, comme votre invité l'a bien précisé, c'est-à-dire que le groupe qui représente les intérêts des Occidentaux et surtout les intérêts des Américains fait tout pour saboter, si vous voulez, les intérêts du peuple libanais. Et donc, on voit aujourd'hui que l'opposition réelle nationale et nationaliste au Liban, c'est le Hezbollah. Ça, c'est nouveau dans le discours. Un. Deux, par rapport à votre question, c'est-à-dire l'accord nucléaire qui va être signé d'ici quelques jours, donc après plusieurs négociations, après plusieurs pressions sur l'Iran, plusieurs pressions sur le Liban, sur l'Irak, sur la Syrie, mais on arrive à la fin que les Américains et les Occidentaux ont besoin de se retrouver avec l'Iran dans cet accord nucléaire qui est très important par rapport aux problèmes énergétiques qui menacent l'Occident et qui menacent l'Europe dans les mois à venir. Donc l'accord va être signé. Et le secrétaire général a bien précisé en disant « nous ne sommes pas dans cet accord », c'est-à-dire cet accord qu'il soit signé, qu'il ne soit pas signé, nous, notre demande par rapport à l'entité sioniste, elle doit être réglée entre le Liban, l'État libanais et l'entité sioniste, c'est-à-dire la reconnaissance de la frontière maritime et l'exploitation énergétique du Liban dans ses frontières. Donc c'est un nouveau discours stratégique, c'est ça ce qu'il faut noter. Il faut noter que l'axe de la résistance aujourd'hui il n'est pas dans la passion stratégique, il est dans l'offensive. C'est lui qui prend acte, celui qui est en action et l'ennemi en face, il doit réagir. Et donc ça, c'est nouveau dans le discours de la résistance libanaise.
Merci pour vos explications, Monsieur Amrouni. Alors, Madame Midani, à votre avis, avec toutes ces évolutions, ces tensions, etc., et aussi ce discours que vous et Monsieur Amrouni venez d'analyser et d'interpréter, est-ce qu'il y a risque de tensions et de confrontations directes et militaires entre le Hezbollah libanais et Israël?
De toute façon, le Samah Cheikh Nasrallah était très clair. De toute façon, nous irons au... nous irons à la guerre si nous n'avons pas nos droits. Donc, c'est clair, net et précis. Et je pense effectivement qu'on le fera. De toute façon, il n'arrête pas de dire aussi, nous ne choisissons pas la guerre, mais si on est obligé pour défendre nos droits, nous irons et nous défendrons nos droits jusqu'au bout. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est clair, net et précis. Et ça, c'est aussi un appel à toutes les forces patriotiques de l'intérieur du Liban, mais aussi au soutien du front de la résistance aussi, parce qu'on voit que tout ceci se conjugue malheureusement avec une augmentation incroyable des exactions et de l'offensive israélienne contre le peuple palestinien. Je voudrais faire remarquer quand même que au large de Gaza, il y a aussi des richesses qui appartiennent aux Palestiniens, que les Palestiniens sont chassés de la mer de Gaza même pour aller pêcher. Les pêcheurs sont sans arrêt attaqués par l'armée israélienne, leurs bateaux sont cassés systématiquement. Donc en fait, la riposte, elle concerne aussi différentes parties de l'axe de la résistance, du front de la résistance, et tout le monde est concerné. Dans toute la Méditerranée, il y a des richesses qui appartiennent à la fois au peuple syrien, au peuple libanais et au peuple palestinien. La Palestine occupée, en fait, l'entité sioniste s'arroge le droit, contrairement à tout le droit international, d'exploiter les richesses palestiniennes, puisqu'ils occupent la Palestine. C'est une entité occupante et qui usurpe les richesses du peuple occupé, alors que c'est tout à fait contraire à la charte de l'ONU, c'est tout à fait contraire au droit international. Et là, ils font fi de tout ça, rien que parce qu'ils sont soutenus par l'OTAN et par les États-Unis, par l'Occident. Donc, en fait, là, c'est sûr que on peut aller jusqu'à la guerre, mais elle sera beaucoup plus générale que la détermination de la ligne de démarcation, je dirais, Karish au Liban. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très important dont il faut tenir compte, dont il faut que les Israéliens et surtout ceux qui les soutiennent, les pays de l'OTAN, tiennent compte aussi des droits des peuples de la région.
Merci pour vos explications. Alors, Monsieur Amrouni, il semblerait que le fait de la montée en puissance de l'axe de la résistance fait peur à l'axe US-Israël-OTAN. Et donc, ce serait peut-être une raison pour laquelle Israël ne cesse d'entraver le processus de l'accord nucléaire d'Iran entre l'Iran et les 4+1 et les États-Unis, mais également cette affaire de la zone contestée de Karish. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a là une panique qui se cache derrière tous les actes d'Israël?
Bien sûr, le gouvernement israélien en place, il panique. La situation intérieure, économique, sociale et politique à l'intérieur même de l'entité sioniste, elle n'est pas stable. Et donc, ils ont essayé par l'attaque sur Gaza de récupérer quelques soutiens populaires à l'intérieur de la population israélienne. Ils n'ont pas réussi. Ils essayent de torpiller donc le retour des États-Unis à l'accord. Ils n'arriveront pas. Car M. Biden, les démocrates, la France, l'Allemagne et même l'Angleterre aujourd'hui, ils ont besoin du retour américain à l'accord nucléaire. Et même, j'ose dire, que le retour des Américains à l'accord nucléaire iranien va aussi aider dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire entre la Russie et les États-Unis. Donc, on est vraiment dans un timing, si vous voulez, très important au niveau international. Il faut d'abord le retour des Iraniens et des Américains dans l'accord, avec les conditions iraniennes et les conditions américaines. Le problème libanais, ici, vient bouleverser, si vous voulez, la décision israélienne. Qu'est-ce que Israël va faire? Est-ce qu'elle va céder à la résistance libanaise, c'est-à-dire à l'État libanais, ou est-ce qu'elle va accepter, c'est-à-dire sous la pression de la résistance libanaise? Et c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Mmh. Aujourd'hui, c'est la première fois où l'entité sioniste, elle est obligée de réagir. Elle n'est pas dans l'action, c'est pas elle qui agit par rapport à ses plans, elle réagit par rapport au plan de l'axe de la résistance. Aujourd'hui, l'axe de la résistance, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Irak, la Palestine, Gaza, l'Iran, ils ont un plan. Et le plan fonctionne à merveille. Bien sûr qu'en face, on a l'OTAN, on a les États-Unis, on a Israël, ils ont les moyens technologiques, les moyens militaires, mais au niveau, si vous voulez, de la technologie militaire, au niveau des plans militaires, l'axe de la résistance, il maîtrise au niveau régional tous ces plans, et dont le secrétaire général Sayyid Hassan Nasrallah, il a bien précisé, c'est-à-dire que tous les plans de l'attaque, ils sont prêts. C'est-à-dire qu'ils ont les cibles, ils ont les moyens et les forces spéciales sont prêtes. Dès qu'on leur donne c'est-à-dire l'ordre d'attaquer, ils vont attaquer. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il faut observer la nouveauté dans les discours de la résistance. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui et c'est ça qui rend perplexe la décision israélienne.
Et Monsieur Ambrouni, une dernière question à vous. Ensuite, on aura le mot de la fin avec Madame Mideni. Comment interprétez-vous et comment voyez-vous la perspective des évolutions en ce qui concerne ces tensions entre Israël et le Liban, mais surtout les évolutions de la région? Vous avez bien évoqué la question iranienne, le nucléaire iranien, mais aussi ce qui se passe dans la bande de Gaza, les exactions, les agressions israéliennes, la réponse de l'axe de la résistance et également le conflit russo-ukrainien. Tout ceci est bien lié. Comment interprétez-vous la perspective des évolutions?
Non, l'évolution, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que dans quelques jours, les États-Unis vont revenir dans l'accord nucléaire et aussi d'ici début septembre, l'entité sioniste, elle va accepter des accords avec l'État libanais. Parce que le seul point, entre parenthèses, le maillon faible pour Israël, c'est Gaza. Pour elle, c'est Gaza qui est le maillon faible. Et ça a montré que ce n'est pas le maillon faible, Gaza. Et que rien que le djihad islamique, rien qu'une partie, de la résistance palestinienne a le moyen de faire la structure israélienne. Et les discours de Sayyid Hassan Nasrallah, lorsque de Karish et Amrash, c'est-à-dire toutes les sources de l'infrastructure d'Israël sont les cibles de l'axe de la résistance. Ça, c'est nouveau. Donc, les Israéliens, ils n'ont qu'un seul moyen, c'est-à-dire faire des opérations commando, assassiner des leaders à l'intérieur du Liban, à l'intérieur même de l'Iran peut-être, mais ils n'arriveront jamais à déclarer une guerre, car cette guerre, comme Sayyid Hassan Allah, il l'a dit, si elle se déclare, elle va être générale.
Merci beaucoup. Et Madame Mideni, le mot de la fin à vous. Comment pourrait-on interpréter la perspective des évolutions? Et si vous avez un point à rajouter, on vous écoute.
Alors moi, je pense effectivement que ça, Israël va être complètement soumis à cette nouvelle équation de dissuasion, si on peut parler ainsi. Mais d'un autre côté, clairement que s'il y a la moindre faille dans l'application de ce qui est prévu par Hezbollah et par le Liban, en fait, il y aura effectivement confrontation. À mon sens, il y en aura. Il y aura des confrontations et il y aura aussi obligation d'Israël et puis du monde occidental de de céder sur la question des droits du Liban, des droits. Ils vont essayer beaucoup de faire des accords qu'ils vont défaire, comme ça a été le cas à Gaza. Ils vont faire intervenir des intermédiaires, des médiateurs, mais les Égyptiens, les Qataris, etc. Mais là, je pense qu'il faut que Hezbollah va tenir bon, et j'espère que toutes les parties libanaises de soutien de la résistance tiendront bon avec lui. Vous le savez quand même que l'ambassade américaine essaye de faire diversion au Liban depuis le temps qu'ils étaient aussi, et toutes les nouvelles informations étaient impliquées, Israël était impliqué dans l'explosion du port, chose qui est aussi toujours tue, cassée et cachée jusqu'à présent. Donc ils vont peut-être démultiplier les sens et ça va aller crescendo. Puis la confrontation aura lieu inévitablement.
Voilà. Merci beaucoup.
Mais de toute façon, la résistance sera victorieuse. Et puis les Libanais et la résistance libanaise, comme l'axe de la résistance, sont déterminés à défendre nos droits.
Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, Imad Eddine Amrouni, analyste politique, était avec nous pour cette édition du débat concernant le dernier discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Zeid Hassan Nasrallah. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À toutes et à tous, je vous dis au revoir et à très bientôt.
Hushang Ebtehaj, de la douleur et de l'amour. Tu écoutes le récit de mon cœur ce soir. Tu oublieras demain et moi et mon histoire. Cœur brisé, gonflé de chants de larmes, de solitude et de passions amoureuses, nous prenons le large dans l'espoir d'atteindre la côte pacifique. Nous rompons des lances contre le vent, contre la tempête. Nous avançons et avançons fredonnant nos chants à l'unisson. Avec les oiseaux de mer, nous nous envolons, au soleil, sous la pluie et au clair de lune. Dans le royaume de l'amour, nous sommes au pays du Raza. Ainsi commence notre voyage vers la contrée lyrique de Hushang Ebtehaj, né en 1927 et mort en août 2022. Très jeune, celui-ci se fit le fidèle compagnon du papillon et de la bougie pour crier un amour fou et désespéré. Il ne tarde néanmoins pas à prendre part à la fièvre politique de son époque. Les farouches événements du mois d'août 1953. Inlassablement, il opposera son verbe à l'oppression. Il prendra position en faveur de ceux parmi ses camarades qui connurent la géole. Voilà qui explique pour beaucoup la noirceur de la majeure partie de ses textes. Lyrisme et politique obligent. Les paroles douloureuses du poète, des larmes, se transfigurent alors en sang versé. La rigueur de la bien-aimée conduit à la révolte contre la tyrannie. Et le poète engage sa plume dans son combat pour la liberté. Quand la langue craignait les lèvres, quand la plume redoutait la feuille, et que même la mémoire se troublait, de peur de parler en plein sommeil, nous gravions ton nom dans nos cœurs, comme un dessin sur le rubis. Le baiser. Le chant le plus doux, lui demandai-je. De ses yeux endoloris, elle me fixa. Ses larmes tombèrent goutte à goutte. Sa longue chevelure se mit à frémir. Et pleine de douleur, elle fredonna. Le gémissement des chaînes à mes mains. Et quand elle se libère, dis-je, elle révéla un sourire amer. Quel bel espoir, dit-elle. Mais hélas, mon triste sort ne le permettra pas. Son bateau d'or du soleil est brisé par les rochers de la côte ouest. Je tremblais d'une douleur amère, pleurant avec elle le fond de mon cœur. Regarde, criai-je, sur cette aveugle mer. L'œil de tout astre comme un phare peut diriger les bateaux. L'œil de tout astre, répondit-elle en levant les yeux au ciel, serait un phare pour bateaux. Cependant, cette nuit est une profonde mer. Hélas, que de passagers nocturnes, emportés en sommeil par la magie du soir. Le phare de la lune, dis-je alors, fait bien part du réveil. Mais dans une si sourde nuit, pas un seul chant ne s'entend, dit-elle. Mon cœur bat cependant, criai-je. Écoute, c'est le son des pas d'un ami. Hélas, dit-elle, dans ce piège de la mort, on entraîne encore un gibier. Le son des pas est de lui. Des pleurs déferlèrent en moi. Et le plus beau sourire, lui demandai-je, en plein milieu des larmes. Une flamme éclot dans ses yeux noirs. Le sang lui monta aux joues. Le sourire, dit-elle, que l'amour noble, mais sur les lèvres des hommes, au moment de rendre l'âme. Je me levai alors et lui donnai un baiser. Pleurer. Sous les arbres, les ombres pleurent au soleil vert couchant. Les branches attendent le sort du nuage. Et le ciel est comme moi brumeux et endolori. Le vent t'apporte l'odeur de la terre humide. Les herbes au passage de la nuit sont tristes. Ah, sur quel champ pleut-il? Brûle le jardin dans l'espoir de la pluie, tel mon cœur désire en fondre en larmes. Le corail. Sous les eaux se trouve une pierre, dans le creux noir de la mer bleue, assise en solitaire, au fond de cette épouvantable tombe. Avec son silence, elle est oubliée au fond de cette tanière noire. Le soleil de midi ne l'a jamais chauffée. Le clair de lune sur elle n'a jamais rayonné. Que de nuit, et la gêne. Et personne n'est venu pour la secourir. Que de nuit, elle pleura à chaudes larmes, vainement. Au creux de ce bleu, sous les eaux, se trouve une pierre brisée. Pourtant, elle est vivante. Elle palpite au gardant d'espoir. Dans la poitrine d'un amant, elle était un cœur, chauffé à l'ombre du soleil, elle lui était une fleur. Le soleil couchant, un vieil arbre, brisé, desséché, perdu, solitaire, est assis dans le silence effrayant des champs. Le regard au loin, déprimé sous le triste soleil couchant, un corbeau accablé était endolori. Retournant à son nid, sur ses branches desséchées, s'éteignit la lueur des derniers sourires du soleil. Hamid Mossadegh, de la séparation. Ces vers, écrits en 1964, devenus très tôt populaires, constituaient le mot d'ordre des étudiants réfractaires à la dictature de l'ancien régime d'Iran. Ils sont par ailleurs révélateurs de l'atmosphère de révolte dans laquelle baigne la poésie de Hamid Mossadegh, 1939-1998. Le titre de son premier ouvrage, L'étendard de Kaveh, 1961, illustre cette dimension essentielle de l'œuvre de l'auteur. Celle-ci est cependant profondément marquée, comme les textes d'un grand nombre de poètes de l'époque, par la célébration de l'amour, la plainte contre la séparation et le pesant désespoir de l'amant, déçu dans sa quête de bonheur auprès de sa bien-aimée. Un profond pessimisme est ainsi à l'œuvre chez ce poète. Pourtant, Mossadegh ne manquera jamais, tout au long de sa vie d'artiste, de chanter l'amour, tout en continuant de nourrir son tempérament de contestataire. Si je ne deviens pas nous, si tu ne deviens pas nous, tu seras toi. Peut-être pourrions-nous attiser de nouveau la flamme de solidarité en Orient. Peut-être pourrions-nous dénoncer les malhonnêtes. Si je me lève, si tu te lèves, tout le monde se lèvera. Si me j'assois, si tu t'assois, qui se lèvera ?